Radio Vatican, France-Afrique.
À mes auditeurs, mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver à l'écoute de Radio Vatican. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes, au cours desquelles nous parlerons de la messe que le pape François a présidée dimanche 21 novembre en la basilique Saint-Pierre pour la solennité du Christ roi de l'univers, qui marque aussi la 36e journée mondiale de la jeunesse, bien avant la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique et l'actualité sociopolitique sur le continent. À tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme.
Radio Vatican, France-Afrique, Françoise Niémier.
Le pape François a présidé dimanche 21 novembre en la basilique Saint-Pierre la messe pour la solennité du Christ roi de l'univers, qui marquait aussi la 36e journée mondiale de la jeunesse célébrée cette année au niveau diocésain. Pour ce dernier dimanche de l'année liturgique 2021, le pape s'est particulièrement adressé aux jeunes en les invitant à contempler l'image de Jésus qui vient avec les nuées tirées du livre de l'Apocalypse et celle de Jésus qui assume sa royauté face à Pilate. Le compte rendu de Cyprien Viette.
Ti fa bene, cari giovani, fermarci a contemplare queste immagini di Gesù.
Cela nous fait du bien, chers jeunes, de nous arrêter, de contempler ces images de Jésus alors que nous commençons le chemin vers les Journées mondiales de la jeunesse 2023 à Lisbonne, a remarqué le pape en cette 36e JMJ. La première image, celle de Jésus qui vient avec les nuées, parle de la venue du Christ en gloire à la fin des temps. Elle nous fait prendre conscience que le dernier mot sur notre existence viendra de Jésus. Le pape invite donc les jeunes à être des sentinelles capables de voir la lumière dans les visions de la nuit et à être capables de rêver, a-t-il insisté. L'évêque de Rome a ensuite évoqué la deuxième image, celle de Jésus disant à Pilate lors de son procès « Je suis roi ». Sa détermination, son courage, sa liberté suprême sont frappants, a expliqué François, soulignant l'absence totale de recherche de compromis de la part de Jésus. Tout comme lui, nous devons nous aussi trouver le courage d'aller à contre-courant.
Non contre qualcuno, come fanno i vittimisti e i complottisti.
Non pas contre quelqu'un comme le font les victimistes et les complotistes qui rejettent toujours la faute sur les autres, a-t-il averti avec fermeté. Non, contre le courant malsain de notre moi égoïste, fermé et rigide pour nous mettre sur les pas de Jésus. François a donc invité chaque jeune à se battre pour un royaume de justice, d'amour et de paix et à être un signe vivant de l'amour de Dieu, de sa compassion et de sa tendresse. Après être tombé, chacun doit retrouver en Jésus le courage de se battre et d'espérer, le courage de rêver à nouveau à tous les âges de la vie. Conclut le pape François.
Cyprien Viette. Après avoir célébré la messe dans la basilique Saint-Pierre pour la solennité du Christ roi de l'univers, en la 36e journée mondiale de la jeunesse, le pape François, prenant appui sur l'évangile du jour, selon saint Jean, a observé la particularité de la royauté de Jésus. « Ma royauté n'est pas de ce monde », affirme le Christ s'adressant à Pilate. Le Christ fuit toute quête de grandeur mondaine, mais il rend le cœur de ceux qui le suivent libre et souverain, a affirmé le Saint-Père qui s'exprimait entouré de deux jeunes Romains. Il n'est pas roi comme les autres, mais il est roi pour les autres, a relevé le pape. Jésus ne vient pas pour dominer, mais pour servir. Il ne vient pas avec des signes de puissance, mais avec la puissance des signes. Il n'est pas revêtu de précieux insignes, mais il se tient nu sur la croix. Et c'est précisément dans l'inscription sur la croix que Jésus est appelé roi, a encore fait savoir le Saint-Père qui a ensuite mis en lumière la liberté du Christ et a défini les contours rappelant qu'il libère les cœurs. Jésus se montre souverainement libre du désir de renommée et de gloire terrestre. Poursuivant son exhortation, François a invité à rechercher chaque jour la vérité de Jésus qui nous libère de l'esclavage. La liberté de Jésus vient de la vérité, a insisté le pape, et la vérité nous rendra libres. Et comme d'habitude, le pape a imparti sa bénédiction à tous ceux qui l'ont suivi.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terram.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Amen.
Rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique.
Africa, totelemani, Gonga, Ebelemi.
Commençons la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique par le Rwanda. Kibeho, la terre des apparitions mariales, avait abrité une célébration eucharistique à l'occasion de la 5e journée mondiale des pauvres le dimanche 14 novembre.
Ce dimanche 14 novembre 2021, sur la terre des apparitions de Kibeho, Antoine Cardinal Kambanda, archevêque de Kigali, a présidé la messe de la 5e journée mondiale des pauvres. À cette occasion, les délégations de tous les diocèses du pays ont attentivement suivi le message du pape François intitulé « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » et celui qui l'a donné à Assise, il a présidé la messe du même événement. Antoine Cardinal Kambanda a précisé qu'ils sont venus à Kibeho pour confier les pauvres à la mère du Verbe et lui demander la grâce d'avoir un cœur de miséricorde qui permet la compassion à la misère des pauvres. Selon son éminence, en célébrant cette journée, l'Église transmet un message.
C'est la 5e fois que le Saint-Père a instauré cette journée. Les pauvres nous enseignent combien aussi nous avons besoin de Dieu. Nous sommes des pauvres aussi devant Dieu. Quand un pauvre vous demande l'aide, ça vous rappelle que vous vous adressez à Dieu aussi souvent pour vos besoins.
Par ailleurs, Antoine Cardinal Kambanda a rappelé qu'il nous faut la foi pour comprendre et aimer le pauvre comme Dieu. Monseigneur Anaclet Mvaneza, évêque du diocèse de Nyundo, et nombreux prêtres ont concélébré la messe de cette journée organisée en collaboration avec la communauté de l'Emmanuel sur la terre des apparitions de Kibeho, première apparition reconnue par l'Église sur le continent africain il y a 40 ans. À Kibeho, Rwanda, Ndagijimana Diogène pour Radio Vatican.
La Côte d'Ivoire face au défi national de la paix. C'était le thème qui a marqué la célébration de la traditionnelle journée mondiale de la paix, célébrée le lundi 15 novembre dernier. Retour sur cette célébration avec notre correspondant local.
Prier pour la paix, la cohésion nationale et la réconciliation, être artisan de paix, vivre en harmonie avec les autres dans le but de construire ensemble le pays, tel est l'essentiel du message de la conférence épiscopale ivoirienne, délivré par Mgr Bruno Essoyedo, évêque de Bondoukou, président de la commission épiscopale justice, paix et environnement, adressé à toute la nation en cette célébration.
Artisans de paix, nous le serons que dans la mesure où nous nous efforcerons de vivre en harmonie avec les autres et de construire ensemble notre patrie en fils et filles d'un même Père, Dieu. Et cela ne sera possible que si nous nous engageons à nous conformer au commandement de l'amour qui nous exige de respecter et de faire respecter tout être humain. Le respect de l'être humain passe entre autres par la lutte contre les agressions à la machette, par la justice rendue aux prisonniers de longue date détenus sans jugement.
Dans ce message, les évêques se sont également réjouis de la reprise du dialogue politique annoncé par le Premier ministre Patrick Achi au mois de décembre prochain. Des actes poursuivent les prélats ivoiriens qui participent à la construction de la paix, à la consolidation des acquis en ce domaine qui sont des bonnes initiatives à encourager et à poursuivre. Notons que cette célébration s'est déroulée dans la capitale politique ivoirienne Yamoussoukro autour du thème « La Côte d'Ivoire face aux défis de la cohésion nationale et de la paix ». Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Au Burkina Faso, s'est tenu le 8e congrès national de la jeunesse à Kourougou. Des détails nous ont été donnés dans cette correspondance.
Du vendredi 12 au dimanche 14 novembre dernier, s'est tenu dans le diocèse de Kourougou le 8e congrès national de la jeunesse catholique du Burkina Faso. L'abbé Valérie Sakougri, secrétaire général de la commission épiscopale jeunesse et enfance, nous fait ici l'économie de ce congrès qui a réuni tous les jeunes des différents diocèses du Burkina.
Pendant ce congrès, nous avons eu à faire essentiellement trois choses. Premièrement, la révision des statuts et règlements de la jeunesse catholique. Deuxièmement, l'élection du nouveau bureau de la jeunesse. Troisièmement, nous avons écouté les rapports et les synthèses des activités des jeunes au niveau des diocèses.
Élu pour 3 ans, ce bureau de 11 membres a désormais pour président M. Armel Nikiéman et M. Roger Dayamba comme secrétaire général. Pour rendre efficace ce nouveau bureau, il est prévu qu'il soit outillé d'ici là, selon l'abbé Valérie.
Alors, après ce ce renouvellement des instances, nous aurons une formation des membres du nouveau bureau et nous allons rédiger aussi le plan d'action de la jeunesse catholique pour les 3 ans à venir.
Dès leur retour dans leur diocèse respectif, les jeunes seront au centre de l'attention de toute l'Église Famille de Dieu au Burkina parce que la semaine du 15 au 21 novembre leur sera consacrée. Le thème mobilisateur qui va les aider à vivre cette première semaine nationale de la jeunesse est ainsi formulé. Jeune, découvre ton identité et ta vocation. Paul Da, Ouagadougou pour Radio Vatican.
Le Centre d'études et de recherche chrétienne au Congo-Brazzaville a organisé une conférence à l'honneur de Mgr Anatole Minondou au moment où celui qui aura été archevêque de Brazzaville pendant au moins 20 ans se prépare à la retraite.
Cette conférence s'est ouverte par l'exécution de la congolaise hymne du Congo-Brazzaville avec la prière dite par le chargé d'affaires à la nonciature apostolique du Congo. Dans sa communication qui a porté sur la vie et l'œuvre de Mgr Anatole, l'historien l'abbé Ibo a souligné les points saillants de la vie du pasteur plein d'amour, de respect et de simplicité. Le théologien l'abbé Etuolo a entretenu l'auditoire sur l'aspect théologique et la lettre pastorale de Mgr Anatole intitulée « Chrétien de Brazzaville, vise enfin ton baptême, sois enraciné dans le Christ ». Pour lui, cette lettre est un héritage pastoral, une feuille de route qui permettrait à la postérité de développer une réflexion pour pouvoir répondre aux questions qui se posent à notre contexte. Dans le même ordre d'idées, un autre théologien, l'abbé Ganao, a renchéri en disant que la lettre pastorale de Mgr Anatole est une invitation à revenir à notre source qu'est le baptême. L'abbé Biela a quant à lui fait un lien anthropologique entre la devise de Mgr Anatole, archevêque sortant, et celle de Mgr Bienvenue Manamika, archevêque entrant. Il ressort de cette analyse la logique de la continuité de la mission basée sur la notion de service. En dehors de ces 4 conférences, il y a eu aussi des témoignages sur la vie et l'épiscopat de Mgr Anatole. Cette conférence en honneur de Mgr Anatole Milondo a pris fin par un mot de l'intéressé. Il a remercié les organisateurs et les participants. Severin Mossavo, Brazzaville pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, écarté lors d'un coup d'État militaire le 25 octobre dernier, a été rétabli dans ses fonctions au terme d'un accord signé formellement dimanche avec le général Abdallah Fattah al-Burhan à Khartoum. Pour sa première apparition publique depuis le putsch ayant été mis en résidence surveillée, M. Hamdok a tenu un bref discours aux côtés du général Burhan, chef de l'armée et auteur du putsch. Les deux hommes se sont dit engagés à remettre sur les rails la transition vers la démocratie lors de la cérémonie de signature au palais présidentiel devant lequel des milliers de manifestants anti-putsch manifestaient. Un garde du parc national des Virunga, dans l'est de la République démocratique du Congo, a été tué samedi soir dans l'attaque d'un poste de patrouille par de présumés rebelles du mouvement rebelle M23, a annoncé dimanche l'Institut congolais de la conservation de la nature. Par ailleurs, 5 Chinois travaillant dans une mine d'or ont été kidnappés, un policier congolais tué et un autre blessé par des hommes armés non identifiés dans la nuit de samedi à dimanche dans le sud Kivu. Dans l'est de la République démocratique du Congo, ont indiqué des sources militaires et locales. Au moins 4 personnes ont été blessées samedi à Kaya, principale ville du centre-nord du Burkina Faso, où des manifestants s'opposent depuis jeudi dernier au passage d'un important convoi logistique de l'armée française en transit vers le Niger voisin, ont indiqué des sources locales et hospitalières. En Somalie, le directeur de Radio Mogadiscio, Mohamed Gouled, connu pour ses critiques contre le groupe djihadiste des Shebab, a été tué samedi soir dans un attentat suicide alors qu'il quittait un restaurant de Mogadiscio, ont indiqué des responsables et des collègues. Les Shebab, mouvement lié à Al-Qaïda, ont revendiqué l'explosion qui a tué M. Gouled et blessé 2 autres personnes, le directeur de la télévision nationale somalienne et un chauffeur. La suite de notre programme, c'est avec le père jésuite Martin Bahati qui continue de nous présenter l'encyclique du pape Fratelli Tutti.
Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui dans la lecture méditative de la lettre encyclique Fratelli Tutti, du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale, nous lisons le dernier point du cinquième chapitre intitulé « Plus de fécondité que des succès ». Selon l'encyclique Fratelli Tutti, tout homme politique est aussi un être humain, en même temps qu'il exerce cette activité politique. Il est appelé à vivre l'amour dans ses relations interpersonnelles quotidiennes. Le pape souligne qu'en politique, il est aussi possible d'aimer avec tendresse. Et le pontife de se demander, qu'est-ce que la tendresse? Il y répond lui-même, la tendresse, c'est l'amour qui se fait proche et se concrétise. C'est un mouvement qui part du cœur et arrive aux yeux, aux oreilles, aux mains. La tendresse est le chemin à suivre par les hommes et les femmes le plus fort et le plus courageux. Dans l'activité politique, souligne le pape, le plus petit, le plus faible, le plus pauvre doivent susciter notre tendresse. Ils ont le droit de prendre possession de notre âme, de notre cœur. Dans l'activité politique, continue l'encyclique, il faut se rappeler qu'au-delà de toute apparence, chaque être est infiniment sacré et mérite notre affection et notre dévouement. C'est pourquoi, poursuit l'encyclique, si j'ai réussi à aider une seule personne à vivre mieux, cela justifie déjà le don de ma vie. Selon le pape, celui qui aime et qui a cessé de comprendre la politique comme une simple recherche de pouvoir est sûr qu'aucune de ses œuvres faites avec amour ne se perdra, ni aucune de ses préoccupations sincères pour les autres, ni aucun de ses actes d'amour envers Dieu, ni aucune fatigue généreuse, ni aucune patience douloureuse. Tout cela envahit le monde comme une force de vie. D'autre part, continue Fratelli Tutti, il y a une grande noblesse dans le fait d'être capable d'imiter et d'initier des processus dont les fruits seront recueillis par d'autres, en mettant son espérance dans les forces secrètes du bien qui est semé. La bonne politique, affirme le pape François, unit l'amour, l'espérance, la confiance dans les réserves des biens qui se trouvent dans le cœur du peuple, en dépit de tout. C'est pourquoi la vie politique authentique, qui se fonde sur le droit et sur un dialogue loyal entre les personnes, se renouvelle avec conviction que chaque femme, chaque homme et chaque génération porte en eux une promesse qui peut libérer de nouvelles énergies relationnelles, intellectuelles, culturelles et spirituelles. Ainsi vu, souligne le pape, la politique est plus noble que ce qui paraît, que le marketing, que les différentes formes de maquillage médiatique. Tout ce que ces choses arrivent à semer, c'est la division, l'inimitié et un scepticisme désolant, incapable de susciter un projet commun. Le pape termine ce point en se projetant dans l'avenir avec des questions qui interpelle et qui suscite beaucoup de réflexions. Il s'interroge à propos. En pensant à l'avenir, les questions devraient être à quelle fin? Quel est l'objectif que je vise réellement? En effet, dans quelques années, en réfléchissant sur le passé, la question ne sera pas combien de personnes m'ont approuvé? Combien de personnes ont voté pour moi? Combien de personnes ont eu une image positive de moi? Les questions, peut-être douloureuses, seront plutôt « Quel amour ai-je mis dans le travail? En quoi ai-je fait progresser le peuple? Quelle marque ai-je laissée dans la vie de la société? Quel lien réel ai-je construit? Quelle paix sociale ai-je semé? Qu'ai-je réalisé au poste qui m'a été confié.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
C'est au tour de Marie-Josée Mondo-Boisboileau de nous présenter le magazine du jour consacré à la femme.
Notre magazine sur l'engagement de la femme au sein de l'Église et dans la société concerne la célébration jeudi 25 novembre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette célébration a pour source un événement particulier, l'assassinat le 25 novembre 1960 des trois sœurs Mirabal, militantes politiques en République dominicaine. En 1993, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui a défini le terme « violence à l'égard des femmes », tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Les Nations unies célèbrent par ailleurs les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre du 25 novembre au 10 décembre sous le thème mondial défini par la campagne du secrétaire général des Nations unies, à savoir « Oranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes ». Près d'une femme sur trois a subi des mauvais traitements au cours de sa vie. En période de crise, les chiffres augmentent, comme on a pu le constater pendant la pandémie de COVID-19 et les récents conflits, crises humanitaires et catastrophes climatiques. Un nouveau rapport d'ONU Femmes basé sur des données provenant de 13 pays depuis l'apparition de la pandémie montre que deux femmes sur trois ont déclaré qu'elles ou une qu'elles connaissaient avait subi une forme de violence et qu'elles étaient plus susceptibles de faire face à l'insécurité alimentaire. Seulement une femme sur dix a indiqué que les survivantes s'adresseraient à la police pour obtenir de l'aide. Bien qu'elle soit omniprésente, la violence basée sur le genre n'est pas inévitable, elle peut et doit être évitée. Pour mettre fin à cette violence, il faut commencer par accorder foi au récit des survivantes, adopter des approches globales et inclusives s'attaquant aux causes profondes, transformer les normes sociales préjudiciables et autonomiser les femmes et les filles. Avec des services essentiels axés sur les survivantes dans les domaines de la police, de la justice, de la santé et des services sociaux, ainsi qu'un financement suffisant pour le programme des droits des femmes.
Le tour de la presse catholique africaine, c'est avec Donna Sinyembo.
À la une de la Croix Africa ce vendredi 19 novembre 2021, Cameroun, des soldats menacent de brûler un hôpital catholique. C'est par là que nous ouvrons cette page de la revue de presse catholique africaine. À la recherche de sécessionnistes, lisait-on vendredi dans la Croix Africa, des militaires de l'armée camerounaise ont fait irruption avec leurs armes dans l'hôpital général catholique Sainte-Élisabeth de Chizang, dans la zone anglophone du Cameroun. Après des heures de recherche infructueuses, ils ont menacé de brûler l'hôpital. Les sœurs tertiaires de Saint-François en charge de l'hôpital général catholique Sainte-Élisabeth de Chizang et leurs patients ont vécu 2 heures de frayeur lundi 14 novembre, poursuit la online newsletter du journal africain. En début d'après-midi, des soldats armés des forces gouvernementales camerounaises ont débarqué au centre de cardiologie de l'hôpital catholique à la recherche de sécessionnistes anglophones plus connus sous le nom de Amba Boys. Fondé en 1935, l'hôpital général de la mission catholique, également nommé l'hôpital Sainte-Élisabeth de Chizang ou simplement Chizang, est la première et la plus ancienne des institutions sanitaires des sœurs tertiaires de Saint-François au Cameroun, précise la Croix Africa. Éthiopie, 6 missionnaires salésiens libérés de leur détention par la police et placés en détention à domicile. C'était l'un des titres vendredi 19 novembre de ACI Africa. 6 membres de l'Institut religieux des Salésiens de Don Bosco, qui faisaient partie des personnes arrêtées lorsque les forces gouvernementales de la capitale éthiopienne Addis Abeba ont fait une descente dans 2 de leurs locaux au début du mois, ont été libérés de leur détention policière et placés en détention à domicile, a déclaré une source dans une interview à ACI Africa. Dans l'intervention du jeudi 18 novembre, précise le journal africain, la source qui ne souhaite pas être identifiée a déclaré que 7 membres des Salésiens de Don Bosco ont été libérés le week-end dernier, mais qu'un d'entre eux a été arrêté à nouveau alors qu'il se rendait dans une des communautés salésiennes pour récupérer ses documents. Afrique-Tanzanie, l'impact de l'environnement sur les développements humains durables. Les évêques lancent la plénière 2022 de l'AMECEA, écrivait Fidesz jeudi. Nous avons la responsabilité de nous évangéliser d'abord nous-mêmes, afin de changer notre attitude envers l'environnement et de rappeler aux gens l'importance de prendre soin de ce qui nous entoure tout en évangélisant, avait déclaré Mgr Gervas Nyasonga, président de la conférence épiscopale de Tanzanie, lors de la récente inauguration de la 20e assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales d'Afrique de l'Est, AMECEA, que la Tanzanie accueillera en juillet 2022.
Donatien Nyembo qui nous présentait à l'instant la revue de la presse catholique africaine.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Et voilà, amis auditeurs, c'est ici que prend fin cette édition de notre programme qui vous a été présentée par Françoise Nyamia. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie et surtout de votre fidélité renouvelée à Radio Vatican. À très bientôt.
Ma vie, c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé. M'arracheter. Oh Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Oh Seigneur, accueille-moi.